OK, donc bienvenue à ce deuxième épisode de pilote du podcast Expérience Loisirs. Comme j'ai mentionné dans mon dernier podcast, j'ai eu la chance d'enregistrer trois épisodes la même journée pour créer une série de trois épisodes pilotes pour tester différents aspects au niveau du podcast. Donc j'ai joué avec mon matériel, j'ai joué avec différents aspects de la structure, j'ai aussi joué avec différents styles d'invités. Donc j'en ai appris beaucoup. Le but en fait des épisodes pilotes, c'était de tester l'intérêt et de tester aussi les différentes structures par rapport au podcast. Donc j'en profite pour vous remercier premièrement de la grande réponse super positive que j'ai reçue, vraiment des beaux commentaires. J'ai aussi reçu des commentaires qui étaient très constructifs par rapport au premier épisode qui vont vraiment me permettre de pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus optimisé pour les prochains épisodes. Donc j'invite tous ceux et celles qui souhaitent participer à ce beau projet à me contacter directement sur la page Facebook du podcast Expérience Loisirs ou sinon sur mon Facebook Fred, F-R-E-D-D-N-Ross, R-O-S-S. Donc voilà, on commence ça avec Martin Hamel qui va venir nous parler de gestion d'artistes au niveau des arts de la scène. Ce que je trouve intéressant de Martin, c'est qu'il peut nous offrir les deux côtés de la médaille. C'est un artiste depuis son tout jeune âge et il a eu au cours de sa vie à gérer plusieurs artistes au niveau d'événements qu'il a créés. Donc je laisse la parole à Martin et au plaisir de vous lire dans les commentaires.
Je te laisse aller. Je te suis.
Écoute, Martin, premièrement, merci de te présenter là, aujourd'hui. C'est super, super apprécié de partager l'expérience, de partager aussi l'aventure.
Tout le plaisir est pour moi.
Donc, merci, Martin, d'être là aujourd'hui. On va parler de ton thème qui est la gestion des artistes. Puis ça, je pense que ça va englober comme énormément de choses. Avant de se rendre à la gestion des artistes, je voulais en apprendre un peu plus sur toi. Ouais. Donc, parle-moi un petit peu de toi pour commencer.
On pourrait quasiment dire que je suis né dans un caisse de guitare. Mais non, c'est ça. En fait, j'ai toujours dit que j'étais un guitariste vagabond. Et okay. Je suis parti avec ma guitare autour de l'âge de 14-15 ans à l'adolescence. Puis j'ai commencé à cheminer comme ça tout au long de ma vie.
14-15 ans?
Ouais, environ, oui.
T'es allé où?
Je suis rentré dans le métro à Montréal, au métro Henri Bourassa.
OK.
Et j'ai fait, en partant là, quelques années, mais j'étais en fait une dizaine d'années à me promener dans les rues, dans les métros, un peu partout dans le monde.
OK.
Ce qui fait que j'ai fait le métro de Paris, New York, San Francisco, Montréal, Toronto. J'aurais rêvé de faire Moscou, mais j'ai jamais eu le temps d'y aller finalement.
Puis pourquoi tu t'es lancé? Ça part de où?
À 14 ans, t'as pas beaucoup de place où t'as le droit d'aller jouer. Fait qu'il reste la rue.
Puis l'école,
reste,
c'était pas...
Ben en fait, ça allait pas. C'était peut-être pas la place où j'excellais le plus. Puis l'école, la vie m'a apporté autant que ce que l'école aurait pu m'apporter.
Okay.
Puis c'est ça, ben j'ai cheminé un peu là-dedans tranquillement.
Puis c'était quoi l'élément déclencheur de à 14 ans? Je me lance.
Ouais, je pense que l'école m'a encouragé à aller faire d'autres choses. Puis j'ai pris l'offre comme étant quelque chose de très alléchant. Puis je suis parti avec ma guitare. Puis je l'ai essayé. Je vais toujours me rappeler, ma mère me dit, quand je suis parti avec ma guitare la première fois pour aller dans le métro, elle me dit, tu vas aller faire un fou de toi. Puis j'ai dit, je vais l'essayer, j'ai rien à perdre. Puis quand j'ai chanté dans le métro, en fait, je grattais plus que d'autres choses. Je chantais pas du tout à cet âge-là. Et les gens, j'ai fait beaucoup d'argent, j'ai fait 80$ en 2 heures.
80$
ouais,
en 2 heures?
Puis okay. C'est beaucoup pour un petit gars de mon âge, tu sais.
Puis là, on est en quelle année? Quand
on est au début des années 80. Là,
OK, okay. À 80$.
Okay. Ouais, c'était quand même très bien pour
40$ pour de l'heure, c'est bon. Hein?
Puis quand je suis revenu à la maison, j'ai dit à ma mère, j'ai décidé que je ferais un fou de moi plus tard. Parce que j'ai vu que c'était très payant.
OK.
Mais c'est ça, ça l'a vite changé parce que... En grandissant, on devient moins cute un peu, puis les gens, ils sont tannés de nous voir à la même station, fait qu'il faut changer de place.
T'es plus la relève, t'es plus
non,
le nouveau.
T'es plus le new kid in town, okay. Comme on dit, les gens sont contents, ils trouvent ça cute, trouvent ça beau, mais quand ça fait déjà 3$ qu'ils te donnent en 25 sous, à un moment donné, ils se disent, on m'en donne un autre. Fait que là, tu passes à une autre station pour trouver des nouvelles personnes, tu sais, puis tu ramasses l'argent que tu pognes sur le fly, mais c'était une belle école, c'était un beau début, puis beaucoup d'artistes qui ont commencé comme ça. Ben, étonnamment, moi, j'ai rencontré des gars comme Luc de La Rochelière à ses débuts, alors qu'il courait les maisons chrétiennes pour avoir la place ou pouvoir chanter ses chansons. Puis il venait au métro Henri Bourassa, lui aussi, chanter.
OK.
On sait très bien que la gang d'Offenbach ont déjà fait de la musique dans le métro aussi, même étant déjà connu, là. C'est pas parce qu'il originait de là, mais ils
toi, l'ont fait. Toi, connaissais-tu? Je pense que c'est Brain LeBeuf.
J'ai bien connu Brain LeBeuf il y a quelques années, alors que j'étais à Shawinigan. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de musiciens qui ont démarré comme ça, puis qui ont fait leur place. Puis même, je peux dire que dans le métro, j'ai rencontré des virtuoses qui venaient de partout dans le monde. Parce que c'est la place où tu pouvais avoir une job sans avoir de papier d'identité. Puis t'avais pas à... Parce qu'à l'époque, Montréal, c'était la seule métro que je connais dans le monde où t'avais même pas besoin d'un permis. Tu t'installais là où il y avait une enseigne au mur, puis okay. Tu avais le droit de jouer de la musique.
C'était quoi? C'était la loi de la jungle, le premier arrivé, premier servi?
Ouais, ben il y avait des listes, puis on fonctionnait avec nos listes, puis il fallait y aller la nuit. C'était très complexe.
C'était-tu des paquets de cigarettes?
Oui. C'était des paquets de cigarettes découpés. On mettait notre nom dessus la nuit. Il fallait rester toute la nuit dehors.
Pour pouvoir jouer.
Ouais, puis l'hiver, c'était assez ardu, tu sais. Tu arrives à la fermeture du métro à 1h du matin, à la station, mettons, Bonaventure, puis tu restes là jusqu'à temps qu'un autre musicien arrive.
Okay.
Puis quand il y en a un qui arrive, toi, tu avais déjà choisi tes 2 heures que tu veux jouer demain. Bien là, lui, tu lui donnes les listes, puis il tombe responsable des listes pour la nuit. Puis toi, tu peux partir à une autre station, aller attendre une autre place, puis mettre ton nom sur une autre liste.
Okay.
Puis tu libères un autre gars qui s'en va ailleurs aussi. Fait que comme ça, tout le long de la nuit, tout le monde, il y a une rotation de musiciens de métro qui faisait le tour pour aller mettre le nom sur la liste.
Puis aujourd'hui, tu sais-tu c'est quoi un peu? C'est-tu la même game?
Ça a tout changé. Je pense que maintenant, il y a des permis, c'est plus complexe.
Okay.
D'après moi, ils doivent passer des auditions comme dans d'autres
villes.
Des
auditions?
Oui, dans le cas de Québec, je me rappelle qu'il fallait qu'on passe une audition pour avoir un permis.
OK. Puis, faut-tu que tu connaisses comme
c'est bien,
6 tounes
mais...
pour pouvoir passer?
Il faut savoir que dans le métro, quand tu joues, les gens, là, ils t'entendent à peu près 20 secondes. Ils arrivent de gauche à droite. Donc, okay. Le temps d'arriver à toi, ils vont t'entendre 10 secondes. Puis le temps de passer devant toi, il reste 10 secondes avant qu'ils t'entendent plus.
OK.
Fait que c'est
faut que t'épongues.
Ça prend... C'était 5 secondes pour faire sortir 25 sous de la poche.
OK.
Il faut que tu sois vite, puis tu sois vraiment...
Tu fais quoi? Tu joues en repeat la toune de l'heure?
Ouais. Puis c'est plate pour les contrôleurs du métro parce que les autres sont là toute la journée. Tu sais, fait que, il a essayé de mettre les pancartes loin des cabines de contrôleurs justement à cause de ça. Là.
Ah ouais. Puis aujourd'hui, ça t'amène en fond une certaine, je dirais peut-être une notoriété en termes d'artiste. Comment est-ce que tu vois ton cheminement en fait de « je suis un artiste et j'en gère ». Est-ce que tu vois que c'est une plus-value ou tu, étant donné que t'es comme un peu trop dans le game, ça te nuit? Comment est-ce que tu vois ça?
Ben, en fait, moi, j'ai souvent pensé que pour être capable de positionner des artistes, il faut déjà avoir été un artiste pour savoir c'est quoi les positions à trouver. T'sais.
Okay.
Parce qu'il n'y a pas d'école. T'sais, le show business, c'est un business un peu improvisé. Puis c'est un peu monsieur, madame, tout le monde qui s'improvise gérant d'artiste. Puis il y a des écoles du show business mais qui fonctionnent comme des écoles. Mais la vraie vie dans le show business, il n'y a pas d'école pour t'apprendre à le faire. C'est vraiment... Puis il y a pas de mauvais puis de bons artistes. Je pense que tout le monde a sa place à être entendu. Puis je pense qu'il y a des oreilles pour tout le monde sur la planète. Fait qu'on est capable d'en produire de toutes les sortes. Mais il faut avoir passé par là pour savoir
ce que ça implique.
Ce que ça implique. Puis dans quoi t'embarques un artiste quand tu lui proposes un spectacle. Puis
pour quelqu'un qui n'arrive pas du domaine du tout, là, des artistes à titre d'exemple, j'ai fait ma technique, j'ai fait mon bac, j'ai jamais eu à gérer d'artiste. Par où je commence?
Il y a plein de choses en gestion qui peuvent servir à faire de la gestion événementielle. Mais
d'artiste, mais ça, c'est un autre game.
Pour gérer des artistes comme tels, c'est une autre dynamique, c'est sûr. Tu sais, puis je gère pas des artistes spécifiquement non plus. Je travaille beaucoup avec plus l'événement. Mais c'est sûr que ça prend des artistes pour les faire, ces événements-là. Puis c'est là où est-ce que moi, je rejoins des gens plus facilement parce que je le fais moi aussi.
Okay.
Puis souvent, par expérience, quand j'étais, par exemple, à Shawinigan Sud, au Conseil des arts de la culture de Shawinigan Sud, on avait ouvert une petite salle de spectacle. Puis toute la programmation, c'est des artistes que j'avais connus tout au long de mon cheminement de musicien de rue.
Okay.
J'ai fait venir Mike Sterling, qui est un virtuose de la guitare. Et puis j'avais une salle pleine de guitaristes qui étaient venus voir ce show-là.
Oh, wow, okay.
J'ai fait venir... j'ai fait des événements avec la gang de Shawinigan Sud. Puis on avait fait les arts à l'œuvre. C'était 60 artistes de toutes disciplines confondues,
okay,
qui étaient venus le temps d'une journée. On a monté ça en 21 jours. Il y a eu 5000 personnes qui sont venues.
5000?
Puis, okay, en 21 jours, à partir de zéro, on a eu le OK du CA. Puis on a réussi à réaliser l'événement. Pourquoi? Parce que j'avais des artistes ma banque de contact.
Okay.
Puis ça a été super simple parce que sinon, on n'aurait jamais été capable de booker 60 artistes en l'espace de 3 semaines puis réaliser le show puis tout. Mais on a quand même, j'ai des gens de Québec, des gens de partout qui venaient, des caricaturistes de Québec. Il y avait, tu sais, des gens, on avait un forgeron, on avait toutes sortes de monde, tu sais, qu'on a engagé. Puis c'est tous des gens qui sont venus à faible coût, parce qu'il savait que j'étais un artiste moi aussi, puis il, okay, disait, ben Martin, il a réussi à monter jusque-là, on va backer parce que ça nous emmène ailleurs, nous autres aussi.
Il y a une solidarité entre les
oui, malgré les artistes, malgré que j'ai vu, par exemple, dans la production du Festival de blues de Shawinigan, au début 2000, des musiciens venaient me bouder parce qu'ils disaient que je payais pas plus cher qu'ailleurs. Mais je peux pas payer plus cher qu'ailleurs. Okay. Je travaille
comme quoi,
avec.
Tu aurais dû leur donner, ouais, plus parce que tu es un artiste
mais
aussi.
C'est ça, mais okay, tu sais, je peux pas gagner, je peux pas donner plus que ce que j'ai, okay, réussi à trouver. Puis si c'est équivalent à ce qu'ils donnent ailleurs, je vois pas pourquoi on se plaint.
Ben ça m'amène à la question. T'sais, tu me disais que tu avais 60 artistes. Puis souvent, on a l'image de l'artiste qui veut tout avoir, une diva et compagnie. Toi, tu as 60 réalités à gérer.
Ouais, ouais.
Comment est-ce que tu fais? Puis tu sais, il y a aussi l'alcool, il y a aussi des drogues par rapport à ça. Comment est-ce qu'on, ouais, fait pour gérer des personnes qui sont peut-être pas... Tu sais, ils ont une réalité X, tu veux pas leur brimer par rapport à leur cheminement artistique, mais ils s'en vont sur scène, puis toi, tu as des participants. Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça?
Généralement, je vais encourager l'artiste à rester lui-même. Je vais pas l'empêcher d'être lui-même,
okay,
parce que c'est cette personne-là que j'ai engagée.
Okay.
Ce que je déteste le plus, moi, comme artiste, quand je vais quelque part, c'est arriver avec mon spectacle, puis on me demande d'en faire un autre que celui que j'ai amené à soir.
Okay.
Tu sais, au début, j'aimais ça, je me vantais tout le temps, pour je me vantais, mais je proposais toujours aux gens, si vous avez des demandes spéciales, gênez-vous pas pour me le demander. Je me suis aperçu que je me tirais une balle dans le pied parce que je faisais pas mon spectacle, mais celui qu'eux autres choisissaient. Mais quand j'engage des artistes, je m'assure de pas leur imposer un autre spectacle que ce qu'eux autres ont à m'offrir. Fait que si la personnalité de l'artiste, c'est que ça y prend un six-pack avant de commencer. Bon, on va y trouver un six-pack avant de commencer, puis il va nous donner ce show-là.
Okay.
Je pense pas qu'il faut changer les gens, il faut les prendre comme ils sont, puis les mettre en avant comme ça. T'sais.
Mais arrives-tu avec une liste de demandes? Parce que
c'est
ça,
rare.
C'est souvent... dans le fond, quand t'es nouveau, puis t'arrives dans la gestion d'artistes,
ouais,
puis là, mettons, t'as une soixantaine d'artistes à gérer, c'est du un par un. Toi,
ouais,
tu veux quoi? Toi, tu veux quoi?
Ouais.
Comment est-ce qu'on se prépare à...
Tout est assez cédulé d'avance quand on fait de l'événementiel. On marche avec des devis techniques pour ce qui est de, okay, la scène. Tout ce qu'on appelle des risers. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ce terme-là, là, mais c'est comme ça qu'on appelait ça quand j'ai commencé à faire de l'événementiel. Les risers, c'est ce que les artistes ont en demande particulière. Puis étonnamment, quand Iron Maiden est venu à Québec il y a une vingtaine d'années, tout le monde se disait « c'est du monde, c'est des fuckés, c'est des junkies, c'est tout ce que tu voudras ». Mais ils sont débarqués en veston-cravate puis ils ont demandé des jus Oasis à l'hôtel. Fait que tu sais, on pense que les artistes,
ah, ouais,
sont vraiment excentriques à peu finir, mais c'est des businessmen, ils font,
okay,
du show business. Fait que tu sais, ben, c'est. Il y en a, il y a quelques artistes qui sont plus prétentieux que d'autres. Là. Moi, j'ai déjà eu ma Castafiore, puis j'ai déjà eu aussi des gens qui étaient bien au-dessus de tout ce que, okay, qu'on peut être. Mais bon, on va lui donner ce qu'ils veulent, eux autres aussi, mais c'est plutôt rare. Mais...
T'as-tu des exemples de ben, je dirais des deux côtés. Autant un exemple d'échec de « oh, ça, je me suis planté monumentalement », ou un exemple de succès de « wow, ça, j'avais, je dis n'importe quoi », ben, ton exemple de tantôt, une soixantaine d'artistes, puis ça, go, tout le monde. Ça, ouais. On va commencer par peut-être j'ai échec, là, mais y a-tu quelque chose que tu sais que qui est encore aujourd'hui, tu dis, Colin, que j'aurais dû faire ça autrement?
Mais beaucoup de productions que j'ai travaillées, qui étaient miennes, en fait, qui étaient des productions sur lesquelles j'étais créateur, j'ai pas eu beaucoup de budget de publicité. Puis aujourd'hui, je me rends compte, mais pas aujourd'hui, depuis quelques années même, je me rends compte que si tu fais pas assez de publicité, c'est ça qui va être l'élément le plus nuisible à tout ce que tu vas faire. Okay. C'est plate à dire, mais tu peux avoir des événements simples, un petit événement familial, mais s'il n'y a pas assez d'annonces, tu n'auras pas personne. Puis ça, c'est arrivé à quelques reprises. Puis j'ai vécu des événements... je peux te dire, j'ai fait venir Fred Pellerin au Conseil des Arts à Shawinigan Sud, puis j'étais toute seule devant lui dans la salle. Il a fait le spectacle, il a dit « Je partirai pas d'ici sans te faire ça. » Ah, puis il m'a fait une demi-heure, 40 minutes de spectacle.
Wow. Ah, c'est cher.
Puis, c'était vraiment, c'était super, mais...
Avant qu'il soit connu,
c'est pour dire que même pas un an après, okay. il allait en France, puis il était connu partout. Puis ce gars-là, il était chez eux. Puis les gens, ils le connaissaient pas encore à ce point-là parce qu'ils sont pas venus le voir, tu sais.
Ah, fait que t'as eu un show privé de Fred
Pellerin. Oui.
Dans intime. Le fond, t'as été victime de ton erreur de publicité, mais t'es Colin, c'est toute une anecdote.
Oui, mais c'est quand même, ça fait partie des choses qui arrivent, là, mais en même temps, j'ai vu des artistes dans des moments comme ça que tu te dis, mais moi, j'aime beaucoup les spectacles intimes. Celui-là, c'en était tout un, là, ouais. mais les scènes qu'on faisait dans le cas de Shawinigan Sud, c'était les vendredis intimistes. Puis dans le cas du Centre des Arts à Nicolette, j'avais appelé ça les samedis en coulisses.
Okay.
Puis ça, c'est tous des événements très, très serrés, 50-60 spectateurs. L'artiste est au milieu avec eux autres. Puis même dans le cas des samedis en coulisses, le show, tout le spectacle était monté sur la scène. L'auditoire était assis sur la scène.
Ah ouais?
Et à l'entraque, tout le monde s'en allait dans l'loge avec l'artiste.
Hein? OK.
Puis l'artiste rencontrait le public, puis on retournait en scène après. On retrouvait.
Il y avait combien de monde dans
50-60 personnes environ.
Vraiment privé.
Des petits spectacles que ça s'appelait samedi en coulisses parce que les gens étaient dans le rideau de scène. Était avec l'artiste sur la scène.
Ah ouais.
Fait que ça faisait très, très. C'est comme si c'était eux autres, les artistes.
Ben oui.
Puis l'invité, c'était l'artiste. Puis tout le monde allait en loge avec. Fait que c'était...
OK.
Puis tout le monde avait les avantages de l'artiste dans la loge. Donc il y avait du vin, il y en avait pour tout le monde. c'était assez intéressant comme.
Ah ouais, c'est cher.
Ouais.
Pour des artistes en tant que tels, t'en as-tu certains qui se sont pris comme une diva, puis il a quand même fallu que. OK, ben le show must go on. On part avec ça.
Oui, ben je donnerai pas de nom, mais je dirais qu'à un moment donné, j'avais fait venir un duo d'artistes qui était très, très exigeant. Puis la salle était pleine. Puis ça, c'était le fun. Mais tu sais, ce qui était un peu moins le fun, c'était la nervosité de ces artistes-là qui étaient. Selon eux, des artistes professionnels, mais ils avaient tellement de misère à maintenir leur nervosité. Tu sais. Puis ça entraînait un lot de caprices qui était de l'eau, de ci, de ça, son, de l'éclairage, de l'air. Il manquait tout le temps. Puis, fait que l'équipe de sonorisation, c'est dedans tout le temps. Tu sais,
qu'est-ce qui va arriver?
Parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire bon, on veut ça, je veux du son, je veux ci, je veux moins de lumière, plus de lumière. Le spectacle était un peu tourné là-dessus. Fait que même l'auditoire s'en était aperçu à un moment donné.
OK. Ouais.
Fait que tu sais, c'était plate pour moi, oui, mais c'était surtout plate pour eux autres parce qu'ils sont partis et ils ont laissé cette image-là.
OK. Oui, puis l'image en tant qu'artiste on parlait de publicité tantôt, c'est très.
C'est ça que tu vends. Les gens ont payé pour venir voir ce que tu leur offres. Fait que si tu les laisses partir avec un mauvais souvenir, ben ils ont payé pour avoir un mauvais souvenir.
Puis pour les nouveaux là, qui rentrent en poste, as-tu des trucs, des astuces, y a-tu des normes qui existent par rapport aux artistes? Là, je suis conscient qu'il en existe, mais y a-tu quelque chose? Sur quoi on se base quand on est nouveau et qu'on veut faire de la gestion d'artistes?
Ouais, il y a la vraie école qui va dire qu'il faut suivre le by the book, il faut faire comme il est écrit dans la recette de l'école du show business. Moi, je te dirais... prends un cahier avec des pages blanches, puis on repart au début.
Okay.
C'est comme ça qu'on fonctionne. Puis moi, j'ai travaillé à... Puis ça n'a pas si longtemps, là. Puis on a envie de dire à une autre époque, mais c'est aussi fou que ça. Les deux dernières décennies, toute l'évolution de l'événementiel a changé.
Mm-hmm.
On ne travaille plus de la même façon. Je parlais avec Roxane, avec qui est ma fille, avec qui on travaille sur des projets d'événements. Il n'y a plus rien qui est fait de la même façon. On ne doit pas penser, financer un événement comme on le faisait au début 2000. Au début 2000, on travaillait beaucoup en publicité pour aller chercher du financement. Puis la publicité, maintenant, elle n'existe plus parce que la publicité se faisait dans les médias écrits. Les médias écrits sont tout en train de mourir.
Les journaux.
Okay. Fait que, si je disais, je promettais à un commanditaire, écoute, je t'offre de la visibilité, tu vas être dans le Nouvelliste, tu vas être dans la presse, tu vas être dans le Journal de Montréal, ben, ça l'intéressait. Mais aujourd'hui, si je vais voir... un commanditaire, puis j'ai dit ça, il va me dire « qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? » Il n'y a plus personne qui achète les journaux. Fait que, tu sais, ça marche pas.
OK, le gain est moins présent. C'est plus difficile d'aller chercher les artistes.
Oui, maintenant, on travaille, il y a des nouvelles pratiques comme le sociofinancement.
Okay.
Il y a les technologies de il y a le 2.0. Maintenant, on travaille tout en ligne pour annoncer ce qu'on fait. T'sais, il y a Facebook. Il n'y avait pas Facebook au début 2000. Il était là, mais il n'était pas efficace maintenant. Et tout est changé. Fait qu'on n'annonce plus les choses de la même façon. Fait que ce que je dirais à quelqu'un qui se lance maintenant, c'est assure-toi d'être à jour puis d'avoir des jeunes qui travaillent avec toi.
Okay.
Parce que c'est eux autres qui savent faire marcher les machines maintenant.
Okay.
Parce que les boomers, ceux qui me connaissent me voient venir, les boomers ne savent pas faire fonctionner les machines.
Okay.
Ils ne sont pas aptes à ça. Ils sont rendus à une autre étape.
Puis... Ben, si on parle beaucoup de promotion, mais tout le à côté, il y a quand même une certaine structure que les boomers peuvent...
Oui, ça marche. On vend de la bière de la même façon qu'on vendait de la bière. Sauf que quand on collecte l'argent, on ne prend plus de papier. On fonctionne avec des technologies. Il y a des cartes, il y a des paiements virtuels avec le téléphone. Il y a tout ça, ils ne comprennent pas ça.
OK.
Puis, ces gens-là, ils sont encore aptes à faire un paquet de choses. Mais si on parle de démarrer un projet, puis de faire un événement, puis tout ça, je pense que la structure en dessous, là, elle doit être vraiment à jour avec les technologies. Parce que, puis, il n'y a plus de publicité comme avant. Faut se retourner puis trouver du financement ailleurs.
Puis justement, un jeune, soit t'approches toi ou approche, j'ai n'importe quoi, YouTube. Par où on passe pour commencer une approche avec un artiste? Y a-t-il quelque chose d'établi? Faut-tu automatiquement aller par l'Union des artistes? Par où on passe?
Non, faut que tu fasses tes preuves. Puis c'est un peu ce que moi j'ai
dû faire. Pas à titre d'artiste, mais comme technicien. Oui. Moi, j'ai besoin d'un artiste. Là.
Même chose. Je vais donner un exemple. Moi, présentement, je réfléchissais à l'aspect visuel, photo, vidéo, à travers un projet que j'ai en tête présentement. Fait que tu sais, je me dis, ben, je vais essayer de voir qui est-ce qui est à jour avec les nouvelles caméras, qui est-ce qui est à jour avec les modes de diffusion comme YouTube, Vimeo qui existe en ligne, toutes ces fonctions-là, les tables de montage avec les nouveaux programmes informatiques, ça me prend quelqu'un qui est à jour, puis là, je vais trouver évidemment un jeune qui va être à jour avec ces appareils-là.
Okay.
Ou encore, ça peut être un boomer qui est complètement un crack, puis qu'il est à jour parce qu'il n'a jamais arrêté.
Là, ben, sans faire la publicité, comment est-ce que je fais pour aller chercher l'artiste? Tu sais, mettons, c'est quoi les premières étapes de je veux booker Martin Amel dans un spectacle, je m'en vais où?
Ben, la première chose, souvent les gens ils vont avoir une peur de faire face à un artiste parce qu'ils se disent « je vais me faire revirer puis je vais être obligé d'aller voir son agent ». Il ne faut pas se gêner, il faut l'appeler, il faut aller le voir. T'sais. Moi, quand j'ai voulu parler à Brain Leboeuf, je l'ai appelé. J'ai trouvé son numéro de téléphone puis je l'ai appelé.
Okay. Ouais.
Fait que tu sais, je l'ai appelé, ça a sonné chez eux. Puis il m'a répondu, ben cool, viens me voir, on va arranger ça autour d'une pizza. Puis j'ai été le voir, puis on a signé un contrat d'engagement pour un événement que je faisais. Puis c'était un méga deal. J'ai jamais pu imaginer que j'aurais pu engager Brain Leboeuf.
Okay.
J'ai réussi à faire ça. T'sais. Fait que c'est comme ça, c'est autour de la table que. Puis ils n'ont pas tous un agent.
Ouais, ben c'est ça que j'allais te poser comme question. C'est quoi la différence entre un artiste qui a un agent et un artiste qui n'a pas d'agent?
Un artiste qui a un agent, il travaille déjà beaucoup. Parce que pour avoir un agent, il faut être capable de le payer.
Okay.
Il n'y a pas un agent qui va vouloir avoir un artiste à son compte puis qui ne roulera pas.
OK.
Il y a des artistes qui en ont, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui en ont parce qu'ils en ont besoin. Ils savent, ils n'ont pas la capacité de gérer tout ce qui se passe au-dessus de la guitare puis de la voix. T'sais, ils sont là, eux autres, pour chanter. Il y en a qui se qualifient seulement pour ça. Il y a des artistes qui se gèrent eux-mêmes. Okay. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font moins bien. Puis, c'est, comme je te dis, c'est en faisant l'approche que tu vas avoir la réponse. Hein.
Fait que ça, c'est quoi? On passe par Facebook? On passe par où pour aller chercher des artistes? Parce que là, tantôt, c'est oui, on trouve des téléphones, mais aujourd'hui, trouver un téléphone, c'est peut-être plus rough. Ouais.
Ben, y a...
Sais-tu, il faut aller sur ces pages. T'sais, y a-tu une façon d'approcher? Parce que là, je comprends que toi, tu as des contacts, donc il y a peut-être une façon autre de l'approcher, mais pour quelqu'un qui commence, comment est-ce qu'on fait pour. On passe par les agences forcément?
Mais généralement, si tu fais affaire avec un artiste qui est moins connu, tu vas être capable de le rejoindre par téléphone ou par courriel, parce que si tu vas sur Internet, il va sûrement avoir des adresses pour le rejoindre ou même sa page Facebook où tu vas pouvoir te faire ajouter. Puis là, tu vas même sans être ajouté, tu peux y envoyer un message puis tu risques d'avoir une réponse. Puis s'il n'est pas très connu, il cherche l'ouvrage, c'est ça. Fait que en partant, il va te répondre, ça va aller assez vite.
Okay.
Puis si tu essaies de parler à un artiste connu, par exemple, si tu me dis, moi, j'aimerais ça rentrer en contact avec Éric Lapointe, bien là, c'est sûr que par Facebook, tu ne réussiras pas. Okay. Il ne va pas te répondre parce que ce n'est pas lui qui gère sa page Facebook.
OK, OK.
Fait que tu sais, là, à ce moment-là, tu vas avoir intérêt à trouver son agent, savoir c'est qui son agent, puis envoyer un message à l'agent avec un courriel. Ces gens-là, ils sont là pour booker leur artiste. Fait que...
Puis les normes par rapport aux, mettons, au cachet, comment est-ce que je fais pour me baser de ça, c'est un bon cachet pour tel type d'artiste?
Ouais, ben là, l'Union des artistes, ils ont des tarifs qu'ils sont obligés de respecter. Là, okay. Les artistes sont obligés de demander le minimum que ce que l'Union leur recommande.
Mais ça, c'est si tu fais partie de l'Union?
Si t'es pas partie de l'Union. Si tu t'en vas au niveau d'Éric Lapointe, c'est sûr que tu vas passer par l'Union.
Okay.
Les tarifs de l'Union vont s'appliquer. Tu ne passeras pas par eux autres, mais les tarifs de l'Union vont s'appliquer.
Okay. Donc, c'est l'Union des artistes, c'est le barème pour dire j'engage ma famille.
C'est le minimum. Ils vont dire c'est quoi le salaire minimum pour tel artiste. Puis eux autres, ils fonctionnent avec son niveau de popularité, sa visibilité, sa diffusion. Céline Dion va coûter beaucoup plus cher à faire passer à la télévision que Martin Amel, c'est
ça. c'est encore drôle.
Non, c'est ça, ça, ça. C'est ça,
il y a. Puis comment est-ce qu'ils basent ta popularité? C'est-tu un nombre de personnes qui te suivent? C'est-tu un nombre de likes?
C'est ce que tu as fait. Donc, on compare, mettons, on va comparer des pommes avec des pommes. Céline Dion, Éric Lapointe.
Ouais.
Bon, ben, qu'est-ce que Céline a vendu comme disque? Qu'est-ce que Céline a tu sais, quand a fait un spectacle, qu'est-ce qu'attire comme clientèle.
Okay,
Tout ça, c'est compté. C'est sa cote de popularité qui fait son cachet.
OK. Parce que la vente de disques, il y en a de moins en moins. C'est beaucoup très par peu. Internet maintenant. Ouais. Y a-tu un calcul qui se fait par rapport à ça aussi pour dire t'es à tel niveau de popularité, donc tu devrais avoir le temps?
Non, ça, c'est un problème qu'on a avec les géants du web à cette heure, la musique. Puis on était les premiers à avoir... reçu le coup des géants du web parce que après ça, ça a suivi avec. Bon, là, ils sont rendus aux médias, là, mais il y a eu le cinéma, il y a eu les livres, il y a eu. Fait que la musique, on était les premiers à se faire piquer avec Napster nos chansons par MP3. Puis, tu sais, maintenant, il n'y en a plus de musique. C'est, la musique, c'est seulement des gens qui ont vraiment de la moyenne. Les moyens. On va en studio, avant, ça coûtait 30-40 000 $. Maintenant, tu peux enregistrer chez vous dans la cuisine. Puis tu vas te faire un album. Si t'as pas d'argent puis t'as du temps, tu peux te faire un disque, là, y a pas de problème. Là, <t'sais>.
Puis comment est-ce que l'Union fait pour gérer ça? C'est-à-dire, est-ce que je leur dis voici le nom de tel artiste, puis eux, ils ont une grille, puis ils disent bon, tel artiste a telle cote?
Non, je pense pas que ça soit. C'est plus au niveau eux autres, les tarifs, tu vas avoir de la définition quand tu vas arriver à la télévision, à radio, ils vont t'expliquer pourquoi ça coûte tant là, quand tu passes à la radio. Tu sais.
Mais moi, j'engage quelqu'un demain puis je vais avoir une certaine grille, je les appelle.
Tu vas appeler l'agent puis lui, il va dire « Éric Lapointe, c'est 10 000 $
Ouais, mais les agents vont tout le temps essayer,
ben toi, c'est à toi d'argent aussi. C'est à toi à ce moment-là de dire « Moi, j'ai 8 000 à donner. »
OK.
Ben, je te dirai pas combien j'ai payé pour avoir Brain Leboeuf, mais parce que j'ai promis à Brain que je le dirai jamais, là, mais sérieusement,
je comprends.
C'est moins cher que ce que j'aurais passé si j'avais eu à payer le tarif de l'Union, parce que le nombre de musiciens qui étaient sur la scène, c'est sûr que ça aurait coûté bien plus cher que
ça. Mais tu sais, des fois, sans insulter un artiste, parce que tu sais, les événements ont de moins en moins, ben pas, ils ont de moins en moins d'argent, mais pour les artistes en tant que tels, quand tu vas faire un événement, il y a un coût par rapport à l'artiste, puis il y a un coût par rapport à la logistique, puis bon, promotion, financement. Fait que comment est-ce que tu gères, sans insulter l'artiste, parce qu'il faut avoir un income de c'est combien est-ce que ça vaut un artiste avant de proposer quelque chose, parce que si tu l'insultes en partant, ben, bonne chance pour la négociation.
Et ils vont pas attendre que tu fasses une proposition. Ils vont te demander, c'est toi tu vas demander, j'aurais besoin d'un artiste, ils vont te demander qui, là tu dis ben moi Éric Lapointe j'aurais aimé ça, ok, ça vaut tant.
Ok, ok.
Puis là, après ça, là toi, tu peux arriver puis dire, ben moi, j'ai juste tant. Ils vont dire oui ou non.
Ok.
Mais ça ressemble pas mal à ça. Il n'y a pas de grande négociation là-dedans, tu sais.
Ok.
Parce que c'est assez ferme. Puis il faut savoir, moi, j'ai pris ça à Radio-Canada dans une entrevue, je pense, durant l'été cette année, là. Puis il disait, c'était des artistes qui étaient des musiciens qui accompagnaient, entre autres, justement, Éric Lapointe. Puis une autre guitariste qui, elle, je pense, faisait des festivals de jazz, francophonie, puis tout ça.
Okay.
Puis elle disait, et puis le gars aussi qui disait, les deux disaient que il était payé 300$ chaque par spectacle.
300, OK.
Ouais. Puis tu sais qu'ils sont conscients que ça paraît, ils ont de l'air d'être bien hot en avant, puis tout, tu sais, parce qu'ils jouent devant 25, 30, 50 000 personnes, des fois, même, des fois plus que ça, tu sais.
Oh, ouais.
Puis, mais ils ont quand même juste 300 piastres, eux autres, tu sais. Puis c'est parce que toute la production coûte très cher à mettre en place. Fait que, tu sais.
C'est un spot publicitaire plus qu'un gain.
Ah, ben, c'est parce qu'à la fin, tu peux dire, moi, j'ai joué avec un tel, j'ai joué avec un tel. Okay. Tu peux mettre ça dans ton CV. C'est sûr que c'est le fun. Mais pour ce qui est de devenir riche, les artistes, les musiciens qui suivent les artistes sur les scènes, ils font pas fortune.
OK.
Des fois, je gagne plus qu'eux autres devant 50 personnes, tu sais.
OK, ah ouais,
OK. Faut savoir que ça a un prix, la célébrité, mais la tranquillité aussi, ça a un prix.
Ben, le but d'être un artiste en début, c'est rarement de dire « je vais être riche ». Puis let's go, je m'en vais comme artiste. Là.
Ça dépend à quel âge qu'on prend ça. Parce qu'à 14 ans, je me voyais déjà à Abbey Road avec les Beatles. Okay. J'étais prêt, tu sais. J'étais prêt.
C'est qui t'a inspiré? C'est qui tes modèles?
J'écoutais ben, entre autres les Beatles, évidemment. Là. L'album blanc des Beatles m'a bien démarré en musique. Puis ça m'aidait beaucoup à pratiquer des chansons. Parce que les Beatles, c'était un peu... l'école d'un paquet de monde à cette époque-là.
Ouais, ça l'a inspiré, la pop.
J'avais un livre de Led Zeppelin aussi,
qui
était beaucoup plus dur à jouer, puis parce que c'est la guitare électrique, moi je joue de la guitare sèche, tu sais.
Okay.
Fait que tu sais, c'était... Mais j'aimais cette musique-là, fait que je le pratiquais quand même. Ça a fini par servir à de quoi, tu sais, mais c'est ça, au début c'était pas mal ça. J'ai été longtemps critiqué parce que je chantais dans le Vieux-Québec, parce que j'avais un grand répertoire anglophone.
OK.
Puis... À la fin, j'étais critiqué parce que j'étais le chansonnier qui avait le plus de contrats dans le Vieux-Québec, puis j'étais le mieux payé à cette époque-là. Puis ben, ils pouvaient bien critiquer mon répertoire parce que c'est à cause de ça que j'avais tous ces contrats.
Ben, c'est ça.
Fait que, faut...
Surtout à Québec, la clientèle est très francophone, mais
tous les touristes
vont écouter de l'anglophone aussi.
Tous les touristes, aussi, les Japonais, eux autres, du Paul Piché, ça lui dit rien. Fait que faut t'arriver avec... T'arrives avec quelque chose d'autre à un moment donné.
Du karaoké.
Je faisais Cat Steven, puis ils étaient emballés, les Japonais.
Okay.
Tu sais, ça prend quelque chose d'international, quelque part.
Ben,
c'est ça. J'ai beaucoup de gens qui m'ont critiqué à cause de ça, mais ça m'a jamais dérangé. J'ai continué à faire ce que je voulais faire.
Hey, je vois l'heure qui avance. Vite fait, c'est quoi tes défis à venir? Qu'est-ce qui s'en vient pour.
Ben, premièrement, c'est cette histoire-là, c'est un cheminement qui s'arrête pas. Hein. On commence un jour, puis j'ai essayé de faire d'autres choses. Hein. J'ai travaillé dans le commerce, puis j'ai pas réussi. J'ai fait 10 ans dans un magasin, après ça, 5 ans dans un autre. J'ai essayé les magasins, j'ai essayé de travailler ailleurs aussi, puis je reviens toujours à gratter ma guitare ou à essayer de produire un événement quelque part. Fait que où ça va me mener, je le sais jamais. Je pensais pas de me rendre où je suis aujourd'hui devant toi.
OK.
Fait que déjà là, j'ai déjà gagné. Je pense que il faut partir comme ça. Il faut pas avoir peur de se lancer dans le vide. T'sais.
Parfait. Puis si t'avais à plugger quelque chose, je te laisse le micro à toi. Si t'avais à plugger quelque chose, ce serait quoi pour qu'est-ce qui s'en vient?
Présentement, on est en train de mettre sur pied la compagnie de production qu'on a toujours voulu avoir, moi et Roxane, ma fille. Je pense qu'on est en train de réussir à faire de quoi de bien. On se donne une petite année pour vraiment mettre ça en place comme il faut. Puis on a un événement en tête là, pour le printemps. Fait que c'est ça. Je ne donnerai pas de précision sur l'événement. Mais,
quelle année, mettons, juste pour le printemps?
En 2020, okay. On devrait commencer à voir des choses apparaître.
Okay.
Puis on va voir la page de notre fameuse compagnie qui va s'appeler les Productions 34.
Okay.
Donc P34, on devrait voir ça bientôt, là, au début 2020. Ça devrait.
Puis toi, à titre d'artiste, on peut-tu te suivre quelque part?
Oui, martinhamel.com. C'est fonctionnel, c'est toujours à mettre à jour, là, mais on peut me retrouver sur martinhamel.com en un seul mot.
Fait qu'il faut trouver ton numéro de téléphone pour te...
on peut leur dire, en écrivant martinhamel.com, on trouve mon numéro de téléphone.
Écoute, un grand merci Martin, c'est super apprécié d'avoir participé au podcast.
Ah, ça me fait plaisir.
Puis, si jamais il y a des personnes qui souhaitent rejoindre Martin, c'est martinhamel.com?
www.martinhamel.com.
Parfait.
Toi, en un seul mot.
Parfait. Donc, un grand merci encore.
À bientôt.
Salut.